l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des territoires du monde et de la solidarité internationale.
Bonjour chers auditeurs, chères auditrices. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Serge Martin de l'association Artisans du Monde et que vous connaissez certainement puisque à Montpellier, en tout cas, ils ont une boutique pas très loin du Pérou. Voilà.
Oui.
Et nous allons un peu présenter cette association et en voir les différents aspects. Alors, Serge Martin, quels sont les principes, quelles sont les orientations particulières d'Artisans du Monde et en particulier à Montpellier?
Bon, mais tout d'abord, bonjour. Oui, alors nos orientations particulières, bon, comme vous l'avez dit, on a un magasin 6 rue Saint-Firmin dans Montpellier, près du Pérou, et nous avons essentiellement trois orientations. Alors on marche, si on peut dire, sur trois pattes. Je les donne, mais il n'y a pas de hiérarchie, bien entendu. C'est la vente, l'éducation et le plaidoyer. Donc ben, la vente, c'est ce qu'on fait quotidiennement, enfin, tout au moins du mardi au samedi, dans notre boutique. Vente de produits équitables ou de produits solidaires, produits équitables issus de, comme on dit, alors ça porte toujours à discussion, des pays du sud de la planète, hein,
ou des
pays en voie de développement, mais aussi une partie de commerce équitable d'origine France. Et parfois, ce qu'on appelle du commerce solidaire, c'est-à-dire c'est un commerce qui n'est pas finalement pas très loin du commerce équitable, et qui est peut-être aussi équitable que l'autre, mais qui n'est pas labellisé. Voilà.
D'accord.
Voilà, donc ça peut être du commerce local, ça peut être du commerce international, puisqu'il y a parfois des associations qui lient des liens particuliers avec des organisations de production. Alors c'est notamment en Afrique. Sans que ces associations soient formellement qualifiées d'équitables ou bénéficient d'un label, que ce soit le label Max Havelaar, SPP, WRT.
Donc c'est ça que vous entendez par label?
Alors le label, c'est ce qui fait que, c'est un peu comme le label bio. Le label bio montre qu'un produit est issu de l'agriculture biologique par rapport à un cahier des charges. Là aussi, il y a un cahier des charges, mais qui porte donc essentiellement sur certaines valeurs sociales. Alors c'est d'abord, bien entendu, le prix du produit, c'est-à-dire... Alors, accorder un revenu vital au producteur, un prix juste, on l'appelle comme on veut, un prix rémunérateur, on fait quelque chose qui fait que, en gros, en travaillant, ben, le producteur gagne quand même quelque chose et gagne plus que s'il était sur le marché conventionnel. Ensuite, c'est l'engagement dans la durée, c'est-à-dire que quand on travaille dans le commerce équitable, il peut y avoir une période d'essai pour savoir si l'association est fiable, si le produit, ben, on peut l'écouler. Mais après, il y a un engagement pluriannuel. Alors généralement, dans la loi française, c'est 3 ans. Voilà. Et ensuite, une prime de commerce équitable qui est versée en plus du prix et qui, généralement, tout au moins pour ce qui concerne l'alimentaire, est investie dans des projets de... Alors, ça peut être soit des projets de développement local, comme on verra peut-être tout à l'heure, sur l'agroécologie, la permaculture, mais ça peut être aussi des centres de santé, ça peut être aussi des écoles, ça peut être aussi des garderies, ça peut être aussi des centres d'alphabétisation. Voilà, quelque chose qui se rajoute au prix et qui concerne l'ensemble de la communauté, même si même par ceux qui ne sont pas concernés par la production du commerce équitable.
Alors, ce supplément que vous apportez, vous le trouvez comment?
C'est
une subvention des...
Non, c'est l'importateur.
C'est l'importateur.
Alors, l'importateur, il y en a plusieurs. Nous, à Artisans du Monde, on a un importateur privilégié qui s'appelle Solidarmonde, qui est une société que nous avons créée en 1984, puis qui aujourd'hui, bon, mais le temps fait son œuvre, vit un peu sa propre vie, mais dans laquelle nous sommes toujours partie prenante. C'est eux qui vont payer cette partie-là en plus. Bon, imaginons que vous allez acheter du cacao au nord du Pérou. Ce cacao a un prix équitable qui est fixé pour le pays, qui est un prix minimum. On peut toujours payer plus cher si on veut, bien sûr, mais qui est un prix minimum et qui est normalement supérieur au prix conventionnel. Et en plus, il y a une prime de développement, on peut appeler ça comme ça, ou une prime de commerce équitable qui est versée. Alors là, quand je dis nord du Pérou, parce que je pensais à une organisation que nous avions reçue il y a 2 ans, qui s'appelle Soli Café, qui est une coopérative de production du côté de Cajamarca, dans le nord du Pérou. Et eux, ils avaient promu des centres sanitaires. Alors, ils nous parlaient de dentistes, ils nous parlaient de médecins généralistes, etc. etc. Ouais. Mais donc, c'est bien l'importateur, et finalement le consommateur, donc, à la fin, qui va financer cette prime.
D'accord. Donc... Vous avez actuellement, je pense, dans la boutique dont on peut rappeler peut-être l'adresse précise, si vous...
Oui, l'adresse précise, mais je la répète, donc c'est le Cyrus Saint-Firmin, pas très loin du Pérou, allez, à quelques pas du palais de justice.
Exactement,
en biais par rapport à la rue Foch. Voilà.
Voilà. Donc j'imagine qu'actuellement, c'est une période où vous avez une activité importante dans la boutique.
Ah ben là, c'est la période de Noël, donc c'est évidemment pour nous le mois le plus intense de l'année. Nous avons fait, alors là maintenant on va s'arrêter parce qu'on s'approche de Noël, nous avons fait beaucoup de ce qu'on appelle de vente extérieure aussi. Parce que
sur des
marchés, dans... Dans des maisons de retraite, vente extérieure. Essentiellement aujourd'hui, au mois de décembre, les marchés et les maisons de retraite. On peut aussi de ventes, vente à des cafés, on vend des biscuits d'accompagnement du café, des choses comme ça. Voilà. Mais donc. Évidemment, au mois de décembre, c'est le mois le plus fort. Et là, on a toute une floraison de produits qu'on a commandés exprès. D'autant qu'au mois de novembre, chaque année, c'est une tradition, on a l'expo-vente de Montferrier-sur-Lèze qui dure 3 jours et pour lesquels on fait des commandes spéciales, alors, notamment des commandes d'artisanat.
Très bien, d'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire de l'association ?
Alors, je pourrais vous parler de l'histoire déjà de la fédération, puisque nous sommes une association montpelliéraine, mais nous faisons partie d'une fédération nationale qui s'appelle comme nous, plus précisément c'est nous qui nous appelons comme elle, c'est-à-dire Artisans du Monde. Cette fédération regroupe, je ne veux pas dire de bêtises, 120 associations pour simplifier. Elle existe depuis 1981. Alors, la première boutique Artisans du Monde date de 1974. C'est pour ça que donc, cette année, on va fêter les 50 ans de... Enfin, cette année, l'année prochaine plutôt. Ouais. Dans quelques jours, on va fêter les 50 ans d'Artisans du Monde. C'était une boutique qui, au départ, était d'abord très rudimentaire et axée uniquement sur l'artisanat. Les plus anciens d'entre nous se rappelleront des grandes inondations, des grandes catastrophes naturelles qu'il y avait eu au Bangladesh au début des années 70.
Oui.
Et en fait, c'était dans ce cadre-là. Donc, c'était un groupe de personnes qui avaient décidé, plutôt que de faire appel aux dons et de verser de l'argent qui ne servirait qu'une fois, d'essayer de nouer des relations durables à partir d'un travail que feraient les artisans du Bangladesh. C'est parti de là, puis petit à petit, ça s'est développé. Il y a eu une seconde boutique, troisième boutique, quatrième boutique, et etc. Et jusqu'à créer la fédération en 1981 et la centrale d'importation dont j'ai parlé tout à l'heure, Solidarmonde, en 1984.
D'accord.
Voilà, vous voyez, donc c'est parti de l'artisanat, c'est parti du slogan du commerce, pas de l'aide. je le dis en français, d'habitude on est en anglais, je le dis en français. Et petit à petit, ça s'est étendu à l'alimentaire. Si bien qu'aujourd'hui, dans nos boutiques, on fait à peu près, 50-50, quoi, 48% d'alimentaire, 48% d'artisanat et un petit peu de cosmétique.
Eh oui. Pour tout vous dire, je suis passé à la boutique justement hier pour préparer un petit peu cet entretien et j'ai vu qu'effectivement l'alimentaire s'était développé, qu'il y avait un choix très intéressant de produits divers venant de tous les pays avec lesquels vous commercez, vous travaillez.
Oui, on a les produits phares évidemment du commerce équitable. On a le cacao, enfin le chocolat, sous toutes ses formes.
Le café, j'imagine.
On a le café, on a le riz, mais on a aussi, par exemple, de l'huile d'olive du Liban et de l'huile d'olive palestinienne.
Oui.
On a des produits de commerce équitable origine France, puisqu'aujourd'hui, il existe un commerce équitable labellisé en France. On a des chips, on a des jus de... des jus d'ananas de Madagascar, on a du thé, on a des tisanes, voilà. Bon, on a toute une gamme assez complète de produits équitables. Alors vous pourrez peut-être pas faire vos courses, c'est pas Lidl, bon, mais il y a quand même beaucoup de choses et c'est complété, donc surtout en cette saison, bien entendu, puisqu'on s'approche de Noël, par l'artisanat, qui est assez foisonnant, et qui vient là par contre. On n'a pas de produits français en artisanat, on a vraiment que des produits des pays, des autres continents, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud. Alors, on a les crèches évidemment, c'est l'époque des crèches, donc on a beaucoup de crèches du Pérou actuellement de l'organisation CIAP.
D'accord.
Il y en a encore, donc vous pouvez passer.
Et est-ce qu'il y a des produits nouveaux? Est-ce que vous lancez parfois des produits, par exemple les produits pour la santé, les produits pour la peau,
Alors il y a effectivement quelques produits nouveaux. On a parlé tout à l'heure du cosmétique. On a du beurre de karité qui vient du Togo et du Burkina.
Oui, ça c'est très à la mode, ça, le beurre de karité.
Ouais. On a des shampoings solides, on travaille aussi avec une entreprise sociale française qui s'appelle Yokumi, qui a été fondée par deux femmes et qui fait travailler des groupes de femmes justement là au Togo et au Burkina et qui fabrique des produits dérivés du karité, des choses comme ça. Il y a de l'eau de rose, donc il y a une petite diversification là-dessus. On essaye évidemment de pas toujours faire la même chose et on essaye de ne pas proposer la même chose. Peut-être évidemment dans un sentiment de marketing, mais aussi parce que on pense que les producteurs du sud de la planète, si on peut les appeler comme ça, ne sont pas condamnés par l'histoire à faire toujours la même chose.
Oui.
Ils peuvent se diversifier, ils peuvent faire des produits nouveaux. Il n'y a pas d'un côté quelque chose qui serait réservé au nord de la planète de faire des produits design modernes et de l'autre côté des gens qui feraient toujours les mêmes produits. Par contre, on essaye toujours de maintenir une certaine tradition artisanale, quand on le peut, bien entendu.
D'accord. Bien, on va peut-être maintenant faire une pause pour écouter une musique que vous avez choisie et qui...
Alors,
vous pouvez donner le titre, peut-être ?
C'est Asaf Avidan, Conspiratory Vision of Gomorrah.
Sorrow is back in your eyes, pulling us to the depth. We could have lasted like planets, but your weight dragged us both to a death. They've been sober around you, and I truly believed still suffice. But you're an addict for torture, and the sorrow is back. It's back in your eyes. The minor sonatas of Beethoven roll through your hips, but the words you are aching to sing are glued to your lips. They've been burning the wrongly accused while you're silently dance. But your beauty was such that they all gladly stood in line for the chance. Around you is stiffened, your thigh and your limbs. You're a fossil of love, a relic, an echoing hymn. The purity that once you delivered.
Merci. Merci pour cette musique. Très nouvelle. Et donc, on pourrait peut-être parler aussi d'un axe de votre activité qui est l'axe éducatif.
Oui, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, on avait trois axes, donc la vente, l'éducation et le plaidoyer. Le plaidoyer, évidemment, c'est de s'associer à d'autres, souvent pour une société plus juste, plus résiliente. Voilà, donc ça c'est évident, et on nous retrouve souvent à côté d'autres associations pour promouvoir non seulement le commerce équitable, mais plus de justice globalement dans le monde, plus de démocratie. Et il y a un aspect important de notre activité, alors qui existe au niveau national et qui existe au niveau départemental, au niveau montpelliérain aussi, c'est ce qu'on appelle l'éducation, donc les activités d'éducation. On intervient dans des collèges, des lycées, parfois en faculté, mais on intervient aussi éventuellement dans les écoles primaires. Pour faire des animations qui vont de 1 heure à 3 heures, mais qui peuvent aussi se faire en plusieurs jours,
en plusieurs tranches,
voilà, et qui nous permettent de parler de certains sujets. Alors, non seulement le commerce équitable, mais aussi l'alimentation, mais aussi le climat. Voilà, il y a toute une gamme. On peut faire, par exemple, une animation sur le cacao, ou une animation qui pourrait être, je ne sais pas moi, cacao, café, riz. Et donc, on part toujours... alors, je dis animation parce que ce n'est pas un cours ex-cathédra, sauf dans les facs, mais ça, c'est un peu différent. Ce n'est pas un cours ex-cathédra, ce sont des jeux, ce sont des échanges, en petit groupe, en petite table, et ça se fait en commun avec...
les enseignants.
Avec les enseignants. On travaille avec les enseignants le thème qui va être évoqué. Alors, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle un tandem. Un tandem, c'est-à-dire, c'est un groupe de 3 ou 4 intervenants sur une année avec les élèves, et on travaille sur cet axe-là avec le lycée agricole Bonne Terre à Pézenas. On travaille avec le lycée de Capestan et avec Rougen, et vous voyez que c'est toujours à l'ouest du département,
hein.
On travaille beaucoup moins à Montpellier. On l'a eu fait, c'est ben aujourd'hui on le fait moins, donc écoutez, j'en profite, allez, je fais un appel au lycée, au collège et aux écoles primaires, s'ils veulent faire des animations sur le commerce équitable, sur l'alimentation, sur la santé, enfin la santé liée à l'alimentation bien entendu, voilà, ils peuvent nous contacter.
Alors vous avez associé l'alimentation et la santé, et ça me paraît évident ça, parce que ces produits que nous recevons du Sud, qui nous nourrissent, nous, ils sont produits par des paysans qui souvent souffrent de malnutrition, en particulier en Afrique.
Oui,
c'est un paradoxe quand même, ça.
Ben c'est ce qu'on appelle le paradoxe de la faim. Hein.
Ouais.
Ce sont en fait ceux qui produisent l'alimentation qui en souffrent le plus.
Ouais.
Donc, ben c'est quand même 800 millions de personnes sur Terre. Hein. Ça fait beaucoup. Alors les optimistes diront que c'est pas plus qu'il y a 50 ans et qu'il y a plus de gens. Mais enfin bon, ça fait quand même un certain nombre de personnes qui sont concernées. Et le rôle du commerce équitable, c'est ça aussi. Donc non seulement d'accorder un prix supérieur au prix conventionnel, un prix rémunérateur, mais au-delà de ça, de pouvoir établir une relation dans la durée. La relation dans la durée est très importante, parce que n'importe quel paysan, que ce soit au nord ou au sud, peut toucher le jackpot une année, mais il n'est pas sûr de la toucher chaque année. Là, ce sont des contrats pluriannuels. Ça peut, il y a certains producteurs avec lesquels on travaille depuis 20, 25 ou 30 ans, généralement des grandes coopératives. Donc, ça permet aux producteurs de pouvoir se projeter dans l'avenir. Et ce que j'ai pas dit sur le prix aussi qui est important, c'est que quand on importe directement, je sais pas moi par exemple del Ceibo en Bolivie, donc de n'importe quelle organisation de production, on va payer 6 mois avant, on va payer la moitié de la récolte. Ce qui permet donc, vous voyez, aux producteurs, au-delà du prix lui-même, ben, de pouvoir acheter des intrants s'il y en a, de pouvoir, tout simplement, si un tracteur, de mettre de l'essence dedans, etc., du gasoil dedans, etc. Voilà, donc ça aussi, c'est très important, ça permet de lisser, ça leur évite de s'endetter. Le commerce équitable, c'est pas seulement le prix. Alors c'est ce qui est le plus simple à comprendre, le prix, mais derrière il y a un gros accompagnement et surtout un travail qui doit s'inscrire dans le temps. S'il n'y a pas de description de ce travail dans le temps, c'est vrai qu'on n'atteint pas complètement notre but.
Ouais. Et je crois que les pouvoirs locaux dans les pays africains en particulier, ils ont essayé de maîtriser le prix des matières premières, par exemple je pense au cacao, n'y sont pratiquement jamais parvenus parce que il y a les banques, les contrôles qui se font en Angleterre ou aux États-Unis qui imposent leur propre prix, quoi. C'est quand même incroyable que les régimes n'arrivent pas à imposer le prix pour leurs producteurs.
Alors effectivement, si on parle du cacao, il y avait deux tentatives, enfin une tentative conjointe du Ghana et de la Côte d'Ivoire,
oui,
pour recréer des offices,
oui.
Puisque la Côte d'Ivoire, alors je sais plus, au début des années 2000 ou fin des années 90, avait supprimé l'office du cacao pour le libéraliser, ce qui aboutit à une catastrophe. Et là, ils ont recréé ces offices avec d'une part un prix minimum plus un surprix.
D'accord.
Mais évidemment, les multinationales importatrices ont dit, puisque c'est comme ça, on va acheter ailleurs. Voilà.
Oui.
Donc, vous voyez, c'est vrai que c'est très compliqué. Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est un échec, mais ça a été. Voilà, ça n'a pas été le succès escompté.
C'est vrai que la concurrence reste la règle d'or du commerce international.
Ben, voilà, c'est ça qui est très difficile pour les paysans locaux, donc avec des gens qui viennent acheter des quantités considérables, mais qui les achèteront peut-être cette année, qui les achèteront pas l'année prochaine, qui veulent des quantités très fortes, donc qui entraînent de la déforestation. Et quand vous avez commencé la déforestation, quand à force d'intrants chimiques, vous avez détruit la forêt, vous allez ailleurs, vous continuez, etc., etc., etc. Donc, le commerce équitable aussi essaye conseille de travailler dans ce domaine-là. Par exemple, je prendrais l'exemple de Ferrafrique. Ferrafrique, c'est une entreprise sociale ghanéenne qui travaille avec une coopérative qui s'appelle, je ne sais plus le nom, Raira Glover, le premier mot est faux. J'ai honte. Bon. Raira Glover, mais qui est une coopérative qui réunit quand même 2000 producteurs et qui veille à ne pas faire de la déforestation et qui ne vend que du cacao biologique. Et la particularité de cette entreprise sociale, c'est d'aller de la graine à la tablette. C'est-à-dire que le cacao ghanéen est acheté par une entreprise ghanéenne qui le transforme en chocolat et qui ensuite l'exporte essentiellement vers l'Europe ou vers les États-Unis. Donc c'est très intéressant parce que ça permet d'abord de donner une certaine technicité et ensuite la valeur ajoutée est plus importante parce que la partie de la valeur ajoutée la plus importante c'est à la transformation.
Non, mais c'est vrai que finalement l'aide au développement devrait aller sur cet effort pour permettre aux paysans de voir leurs produits transformés, élaborés et vendus dans des conditions comparables à celles du commerce en Europe ou aux États-Unis.
Voilà, c'est vraiment pour ça, pour qu'ils maîtrisent le plus possible la création du chocolat, enfin du cacao au chocolat dans toute son ampleur. Et on parlait tout à l'heure, je vais être rapide là-dessus, vous voyez, de primes de projets. Et Ferrafrique a constitué une école de chocolat au Ghana afin de partager la technique européenne avec les Ghanéens, qui après, ils en feront ce qu'ils voudront, ils pourront l'améliorer s'ils veulent. Et voilà, donc il y a cet aspect formation et de la même manière qui est un accompagnement à l'agriculture biologique et à l'agroécologie avec la coopérative Yara Glover.
Voilà, alors c'est le moment de dire aux gens qui cherchent du bon chocolat pour les fêtes que ça existe, du chocolat du Ghana ou du chocolat de Côte d'Ivoire, et qu'ils peuvent le trouver tout élaboré en tablette ou en chocolat.
Alors chez nous, ils trouveront effectivement le chocolat de Ferrafrique, mais il y a au Cameroun, je sais qu'il y a des entreprises de transformation en chocolat. Voilà, il y a pas que le Ghana effectivement, mais ça complète la chaîne et ça établit un peu plus de justice dans ce bas monde.
Alors, parlons aussi de votre activité de plaidoyer. C'est le troisième pilier dont on a parlé tout à l'heure. Sur quoi ça porte exactement?
Alors, le plaidoyer porte essentiellement, vous voyez, sur ce dont je viens de parler, c'est-à-dire le rétablissement des termes de l'échange entre les pays dits développés et les pays dits en voie de développement. Ça peut être aussi de soutien. Par exemple, il va y avoir l'année prochaine la campagne européenne. Nous participerons sûrement avec d'autres à un certain nombre de pétitions ou de courriers adressés aux partis politiques afin de leur demander de respecter l'agriculture biologique, de respecter ce qu'on appelle le développement durable. Voilà ce genre de choses-là. Ça peut aussi, évidemment, par exemple, dans le cas du conflit, si on peut l'appeler comme ça, israélo-palestinien, voilà, nous militons pour le renouement du dialogue, pour ce qu'on appelait jadis la paix maintenant. Voilà, bon. Ouais. Alors ça peut paraître, évidemment, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, un peu naïf. Mais nous pensons, et nous l'avons écrit, que aujourd'hui, voilà, il faut en revenir à ce qu'on a abandonné, c'est-à-dire certainement à la solution à deux États. C'est pas simple. Une fois que j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose. Mais revenir à des négociations et ne pas se laisser emporter par le piège d'un côté le Hamas et de l'autre côté les Israéliens extrémistes. Voilà, et militer pour la paix, pour qu'enfin que chacun puisse vivre convenablement sur ce sur, voilà. sur cette part de territoire.
Voilà, c'était effectivement très important qu'on ait pu dire deux mots de cette situation qui est la nôtre actuellement. D'ailleurs, cette activité de plaidoyer, vous l'avez concrétisée récemment, en octobre, je crois, en envoyant une délégation à la communauté européenne. C'était le 24 octobre 23, donc vous avez envoyé un certain nombre de gens pour présenter...
Alors, on travaille beaucoup, quand je dis on, c'est pas forcément la Fédération Artisan du Monde. Hein.
Oui.
Ça peut être... parce qu'on est aussi réunis, les associations de commerce équitable, au niveau... européen et mondial. On est mondial, c'est par la WFTO, qui est l'Organisation mondiale du commerce équitable. Donc, ça peut être des organisations comme Magasin du Monde en Belgique, hein, Magasin du Monde en Suisse, ils portent le même nom, mais ce n'est pas la même association. Oxfam Intermonde, par exemple, en Espagne. Et voilà, on pratique beaucoup avec eux. On a une communauté de liens qui nous permet d'intervenir, notamment, effectivement, au niveau européen. Alors, la loi sur le droit à la vigilance.
Hein,
sur l'obligation de vigilance qui n'est pas directement dans, j'allais dire, les préoccupations, dans les prérogatives d'Artisans du Monde, puisque ça va concerner plus le textile, mais dans lequel nous sommes aussi actifs que nous pouvons l'être. On travaille, par exemple, avec le collectif Éthique sur l'étiquette, qui lutte pour le droit de vigilance. Et c'est dans ce cadre-là, pour que l'Europe véritablement... et une loi véritable qui surveille les conditions de travail, y compris dans les pays de production, et ne laisse pas les multinationales dire « Ah, mais on ne savait pas parce que c'est un sous-traitant ». Voilà. Donc il faut que la multinationale qui fait la production de textiles, par exemple, soit co-responsable de ce qui peut arriver. Ben, c'est arrivé au Bangladesh, on le sait, mais ça peut arriver ailleurs. Et donc des conditions de travail de leurs salariés sur toute la planète. Après tout, ce sont des multinationales, donc leurs salariés sont de partout.
Merci Serge de nous avoir présenté toute la diversité de cette association. J'étais moi-même surpris de voir que ce n'est pas simplement une boutique dans une petite ruelle de Montpellier. C'est tout un tas de choses que vous faites et c'est vraiment enthousiasmant quand on sait quels sont les problèmes actuels de l'alimentation dans une partie du monde.
Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir reçu.
Je vous en prie.
Au revoir à tout le monde.
C'était un plaisir.